Merci, Denis Bonnec.
Vous savez, quand un monsieur inconnu ramène chez vous votre mari mort, dynamite la salle de bain et jette les visiteurs par la fenêtre, on prend l'habitude de ne plus s'étonner de grand-chose.
Thomas Hugues.
Je pense que M. Serrano a pu l'annuler. Il lui est jamais arrivé de changer de cravate ou d'aller pisser sans vous le dire.
Sur RTL.
Le cinéma d'Odia.
La curiosité est un vilain défaut.
Un dialogue au comptoir.
Bonjour Philippe Durand.
Bonjour.
Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes journaliste passionné de cinéma, entre autres des films de Michel Audiard que Michel Sardou chantait. Lui aussi, on vient d'entendre un court extrait des Barbouzes et puis de Mort d'un pourri. On va révéler les coulisses de ces films les plus cultes, de ces répliques là qui sonnent bien dans notre mémoire. D'abord, c'est combien de films Audiard ?
Une centaine, j'ai jamais fait le compte, je crois que c'est 125, mais au moins une centaine c'est sûr, plus ceux qu'il a fait en sous-main, donc oui.
Vous nous citez les plus connus ?
Bah, y en a tellement, je veux dire, on va démarrer par les Tontons Flingueurs, bien sûr. Après, il y a beaucoup de gabins qui ont très bien marché, Mélodie en sous-sol, il y a eu un Taxi pour Tobruk, qui a été lui aussi un énorme succès. Après, il a rencontré Belmondo sur sa route, donc ça a été Le Professionnel, Flic ou Voyou, L'Incorrigible. Donc, y en a, alors après, il y a eu la fin, dernière période avec Pile ou Face, Mort d'un pourri, justement, dont on parlait.
Qui est Mortelle Randonnée aussi.
Mortelle Randonnée. Il y en a tellement, il faudrait citer aussi au début des films très intéressants, un qu'il avait fait avec Louis Jouvet. Il y a beaucoup de films passionnants.
Avec que des succès pour Michel Audiard. C'est toujours quand Michel Audiard signe des dialogues, c'est symbole de succès.
À partir du moment où il a été célèbre, c'est-à-dire à partir du moment où il a rencontré Gabin, oui, c'était pratiquement garanti un succès. Alors, c'était pas forcément un énorme succès, mais c'était garanti un succès, à tel point que son nom sur l'affiche était aussi grand que le nom de l'acteur. Si vous regardez l'affiche de L'Incorrigible, par exemple, vous verrez qu'il est marqué Belmondo Audiard. On a l'impression qu'Audiard est le partenaire de... Jean-Paul Belmondo, heureusement non. Et donc c'était vraiment un gage de succès parce que les gens allaient au cinéma parce qu'il y avait des dialogues d'Audiard.
Alors on va raconter évidemment l'histoire des Tontons Flingueurs, entre autres, il n'y aura pas que ça. Vous nous rappelez la date de sortie et puis est-ce que c'est un succès rapide, immédiat, les Tontons Flingueurs ?
Tontons Flingueurs sortent en novembre 63. Alors oui, c'est un succès, un assez gros succès d'ailleurs, qui étonne tout le monde, à commencer par Gaumont qui ne m'avait pas mis un copec là-dessus en disant ça sent un bide total.
La Gaumont avait même mis la pression les cachets.
Ah oui, ils avaient fermé autres, tous etc. les robinets, la Gaumont. Le seul robinet qui restait ouvert, c'était celui d'Audiard.
Mais pourquoi ils trouvaient que le scénario était nul, la Gaumont, pour les Tontons Flingueurs?
Oui, si vous voulez, l'histoire des Tontons Flingueurs, c'était un film qui devait être fait par Gabin. Alors, oui. Gabin, c'était le numéro un du cinéma français. Si on mettait Gabin Audiard, on était sûr que ça marchait. C'était minimum 2 millions d'entrées. Et au moment où Gabin se désiste, là, c'est panique à bord chez Gaumont en disant « Mais bon, si on n'a plus Gabin, on n'a plus que Audiard. » Alors, Audiard Ventura, oui, c'est pas mal, mais c'était pas exactement ce qu'ils attendaient. Du coup, ils ont vraiment réduit la voilure en disant « Bon, ben, on va vous financer un tout petit film. » Et ils ont financé ça, mais vraiment avec les seuls qui ont pris beaucoup de blé, comme on dit, c'est Audiard et Ventura, parce qu'ils n'ont pas baissé leur cachet, encore qu'Audiard l'a baissé un petit peu.
Et Audiard, il a surtout eu un intéressement sur le nombre d'entrées, c'est ça ?
Audiard avait l'intelligence, ça c'était dans les contrats, il y avait un excellent agent, il a eu l'intelligence d'avoir un intéressement effectivement sur les bénéfices, qui fait que a posteriori, encore aujourd'hui, la famille Audiard, je pense, touche encore quelques sous à chaque rediffusion, ce qui est une bonne chose pour elle.
Les Tontons Flingueurs, c'est vrai que c'est un casting de rêve, on l'a tous dans la rétine. Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Claude Riche aussi, évidemment. Mmh. Est-ce qu'ils faisaient tous partie des acteurs fétiches de Michel Audiard ?
Alors Ventura, Blier, Blanche, oui, sans aucun doute. C'était vraiment des amis, ils les connaissaient très bien, ils savaient leur façon de parler. Claude Riche, c'était le petit nouveau qui était arrivé et qui d'ailleurs a eu du mal à s'intégrer. Lefebvre n'a pas beaucoup de dialogue, donc il pouvait être interchangeable. On a surtout joué sur le physique de Lefebvre, son physique un peu larmoyant et de type qui se prend des beignes. Quoi. Dès qu'on le voit, on a envie de lui mettre une benne, ce que fait très bien d'ailleurs Bernard Blier, un bourre-pif. Mais vraiment les dialogues fondamentaux, donc qui sont d'Alban aussi, qui était un ami de Michel Audiard, il les a vraiment taillé pour eux, ils savaient comment ils allaient les dire, ce qu'il fallait leur faire dire, et c'est comme ça que ça fonctionne.
Philippe Durand, dans votre dictionnaire insolite des Tontons Flingueurs, c'est aux éditions Nouveau Monde, vous racontez que Claude Riche, vous le citiez, a hésité avant d'accepter son rôle de... C'est l'amoureux, c'est le fiancé de...
C'est le fiancé,
tout
oui.
Tout propre, bien peigné. Voilà.
Tout propre. Alors, il a hésité pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un peu d'argot, mais c'était pas seulement de l'argot. Alors l'argot n'était pas du tout la spécialité de Claude Riche, qui était quelqu'un qui sortait du conservatoire et qui jouait vraiment les grands classiques. Il a eu du mal à mettre en bouche les dialogues d'Audiard. Et surtout, quand on écoute bien ces dialogues, Audiard, s'il s'est vraiment déchaîné, il a fait des longues phrases phrases pour Claude Riche, alors que les autres ont des phrases relativement courtes et des phrases très alambiquées, très compliquées en fait.
Quand qui correspondent à son personnage, écoles,
qui correspondent très bien, comme voilà. Ça, comme il s'agissait de se moquer un peu des aristos un peu perchés, comme on dit, Audiard, c'est vraiment bien déchaîné, mais Claude Riche le sentait pas, ce dialogue. Il a eu beaucoup de mal, il m'a raconté qu'il avait beaucoup de mal à l'apprendre et après à le dire.
Est-ce qu'il écrivait sur mesure, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand il écrivait pour Gabin, c'était pour Gabin, pas la même chose que pour Ventura, par exemple.
Si vous voulez, Gabin avait forcément besoin dans un film d'une scène de colère. Donc il fallait que Audiard lui écrive une belle scène de colère où il se met en rogne d'une façon gigantesque. Ventura voulait des phrases très très courtes. Il fallait vraiment les phrases bourre-pif, quoi. C'était
Ventura. Les
Qu'on sente qu'il était au bord de l'explosion, mais jamais qu'il explose en fait. Ventura. Donc phrases très courtes. Et si vous prenez Belmondo, c'est des phrases d'avocat. C'est-à-dire c'est des effets de robe. Il fait des phrases très très longues, très très compliquées. Et donc il adaptait vraiment son dialogue à chaque individu.
Et donc, un dialogue de Audiard, par exemple, pour Jean Gabin, dans le CAFS Rebif, ça donne ça.
Entre nous, Dob, une supposition, hein, je dis bien une supposition, que j'ai un graveur, du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant, c'est toujours une supposition, hein, en admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun?
20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne.
Les bénéfices, ça se divise. La réclusion, ça s'additionne. Voilà, l'une des phrases cultes signée Michel Audiard. Dans un instant, dans la curiosité sur RTL, on vous raconte, mais alors de l'intérieur, on a peut-être un petit extrait, la scène culte des tontons flingueurs.
Tu sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Et la tôlière, comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a
aussi. Voilà, on a tous la scène en tête. Est-ce qu'ils ont vraiment bu de l'alcool quand ils l'ont tourné? On va vous dire ça dans un instant.
Est-ce qu'il y avait de la pomme?
Répondre à cette question centrale. Comment faire tenir 4 comédiens et l'équipe du film dans une toute petite cuisine?
RTL. Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini.
La curiosité est un vilain défaut.
Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte.
Thomas Hugues.
À ma pogne, je veux le voir. Vous promets qu'il demandera pardon?
Sidonie Bonnec.
Ah, des dialogues comme ça manque dans le cinéma français. Ce sont les dialogues cultes de Michel Audiard au menu de notre curiosité sur RTL avec le journaliste de cinéma Philippe Durand. Je suis peut-être un peu dure quand je dis ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un aussi grand soin ou qu'il y a un talent aussi fort que Michel Audiard dans le cinéma français aujourd'hui.
Non, pour deux raisons. La première, c'est que le métier de dialoguiste n'existe plus.
Ça peut jouer.
Et la deuxième, c'est que tous les réalisateurs se croient scénaristes et dialoguistes, et ils ont moins faux dans 2 cas sur 3. Donc,
Alors qu'Audiard, lui, il était dialoguiste, scénariste.
Il était surtout dialoguiste.
Et réalisateur.
En fait, il a été réalisateur, mais enfin, il n'a pas fait des grands films, il faut être honnête. Il était surtout dialoguiste, il était scénariste, non pas créateur de scénario, ce qui ne lui convenait pas, mais il avait un œil infaillible pour voir les défauts d'un scénario. Donc il était plus script doctor, comme on dit, que scénariste.
Est-ce qu'il a été reconnu par la profession? Audiard a eu un César quand même.
Oui, il a eu un César tardivement sur Garde à vue, parce qu'on s'est enfin rendu compte qu'il avait du talent.
Parce que les films comiques sont rarement récompensés au César. C'est une polémique qui existe encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Non, mais c'était pas. On n'allait pas récompenser quelqu'un qui gagnait des fortunes et qui faisait du cinéma populaire. C'était totalement impossible de la part de l'intelligentsia du cinéma de l'époque et encore aujourd'hui. Et je peux vous dire, pour avoir témoigné, quand je me suis intéressé à Audiard il y a de cela maintenant quelques années. C'est comme si je m'intéressais à la bête du Gévaudan. C'est-à-dire, on m'a regardé en disant mais qui va s'intéresser à Audiard?
Philippe Durand, c'est vrai que Michel Audiard rêvait d'être romancier?
Tout à fait. C'était un homme de culture qui avait tout lu, mais vraiment tout lu. C'était impressionnant ce qu'il a pu lire. Je crois qu'il a lu toute la littérature française, même les mauvais livres.
Et il était plus dans les bibliothèques que les bistrots, c'est ça?
Il faisait un peu des deux. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez emmener votre livre au bistrot, c'est très pratique. Et donc, il rêvait d'être écrivain. Il a écrit des livres qui ont... Certains ont pas mal marché, mais quand il s'est rendu compte le temps que ça prenait, l'argent que ça rapportait de faire un livre, et je suis bien placé pour en parler, il s'est dit, vaut mieux faire du cinéma, ça me prend 15 jours, ça me rapporte des millions. Donc il n'était pas fou, en plus il avait un talent monstrueux, il le savait. Et donc oui, il aurait aimé avoir le prix Goncourt. Il était impossible qu'on donne le prix Goncourt à Michel Audiard.
Et vous publiez, vous, Philippe Durand, ce dictionnaire insolite des tontons flingueurs aux éditions Nouveau Monde. Et donc, comme promis, on va rentrer dans la mythique cuisine du film, avec notamment cette phrase, elle aussi légendaire.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Les cons, ça ose tous, et même à ça qu'on les reconnaît. Lino Ventura dans le texte. Et alors, c'est la phrase, ça commence un tout petit peu avant, mais qui lance la scène de la cuisine. Et Philippe Durand, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Audiard, cette scène, il l'avait jetée à la poubelle.
Oui, parce que sur le papier, c'est une scène où on voit 4 ou 5 individus autour d'une table. Ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient faire, parce qu'on a mis du temps à imaginer qu'ils allaient beurrer des sandwichs. Ouais. C'est étonnant de la part de Ventura. Donc on s'est dit déjà, ils vont beurrer des sandwichs, mais ensuite, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Pourquoi cette scène où il ne se passe rien? Bon, il y a les Wolfonis qui arrivent au début avec des flingues, des croiseurs, des tirs de croiseurs, etc., comme on connaît la formule. Mais ça n'allait pas très loin, cette scène.
Donc lui, il n'y croit pas trop.
Et Audiard, il ne croit pas du tout. Donc il se dit, bon, ça ralentit l'action, on va passer, il rentre, il y a la scène de la surprise partie, scandale, etc. Bon, ça, il voulait un peu de mouvement. Et heureusement, Georges Lautner s'est dit non, parce que cette scène, en fait, c'est le ciment des tontons flingueurs, parce que c'est la première fois où on voit qu'ils ont une humanité, ces personnages. Sinon, c'est un peu des pitres, c'est un peu des guignols qui râlent les uns après les autres, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Et tout d'un coup, ils racontent leur passé, ils boivent un coup ensemble, ils mangent. Et en plus, il raconte des choses un petit peu sexuelles, puisqu'ils évoquent les bordels de Saïgon.
Mais elle n'a pas été facile à tourner, cette scène, parce que c'est une scène dans une petite cuisine, c'est ça?
Voilà.
Et donc, on a l'impression que les comédiens sont un peu tous serrés les uns contre les autres. C'était tout petit?
Ah, c'est tout petit. En plus, il y avait, quand on voit bien, on regarde bien le film, on voit qu'il y avait des meubles sur le côté. Il y avait quand même la gazinière et tout ça. Donc, ça, ils ne l'ont pas démonté. Donc, tout ça était là. Et si on regarde bien le film, on se rend compte qu'ils sont tous du même côté de la table, ce qui est totalement illogique. Parce que normalement, vous avez une table, vous êtes 4, vous mettez chacun d'un côté. Et là, il y en a 2 ou 3 du même côté, Ventura au bout. Et ça, c'est normal, parce que Lautner avait juste la place de mettre sa caméra. Et donc, il y avait la caméra, la table, et les acteurs étaient là les uns sur les autres. Mais ça a quand même fonctionné grâce à Lautner.
Et alors, est-ce qu'il y a de la pomme? Est-ce qu'ils boivent de l'alcool?
Il y a de la pomme dans tous les alcools. Oui. Non, en fait, non, heureusement, ils n'ont pas bu d'alcool. Sinon, ils auraient été cassés à la fin de la journée, même si c'était tous des gros buveurs. Il y a eu de l'eau, il y a dû avoir un peu de jus de raisin, peut-être un peu de jus de pomme, soyons honnêtes.
Et des rillettes.
Les rillettes, en plus, elles ont pourri au bout de 3 jours. Et donc, quand les gars arrivaient dans la pièce, là, ils ont dit, les rillettes, ça commence à sentir de faisan. Et non, c'était des vraies rillettes, ça, par contre.
Mais je crois qu'il y a eu, j'ai trouvé ça dans votre livre, il y a eu un piège quand même tendu à Jean Lefebvre.
Oui, alors ça, c'est une légende. On n'a jamais été vraiment confirmé à 100%, mais comme elle a été répétée et véhiculée même par Jean Lefebvre lui-même, c'est vrai qu'à un moment, ils se sont dit, on va mettre un peu d'alcool fort dans le verre de Jean Lefebvre pour qu'il pleure. Alors, et pourquoi je dis que c'est une légende? Parce qu'en fait, Jean Lefebvre était engagé parce qu'il pleurait très facilement. Il avait démarré sa carrière comme ça, il suffisait de le pousser un peu, il pleurait. Donc on avait prévu la scène où Jean Lefebvre allait pleurer. Alors peut-être que pour l'aider un petit peu, ça dit plutôt que de lui mettre des trucs dans les yeux, on va lui mettre un truc dans le verre. En tout cas, ça a très très bien fonctionné.
Ouais. Philippe Durand, vous publiez ce dictionnaire insolite des tontons flingueurs chez Nouveau Monde. Et est-ce qu'on peut dire, Philippe Durand, que Michel Audiard a inventé un nouveau genre? Pas avec les Tontons Flingueurs, mais avec d'autres films avant celui-là.
Totalement. Il a inventé ce genre que personne n'a osé, ni avant lui, ni après lui, qui est le mélange, j'allais dire, de la littérature française et de l'argot. C'est-à-dire, quand on écoute bien ces phrases, c'est de la littérature, c'est construit comme des phrases de littérature, de grands auteurs, on peut prendre Balzac, Hugo et tous ces champions-là, mais dans lesquels il arrivait à glisser de l'argot. Alors, il s'amusait à dire, ce sont des phrases que j'ai entendu au bistrot ou dans les taxis. C'est faux, parce qu'on a tous été au bistrot et dans les taxis. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme les tontons flingueurs. Et on peut prendre les taxis pendant 20 ans. Donc, il avait ce génie de mélanger deux choses, c'est-à-dire sa propre culture de livres qu'il avait appris pendant toute sa jeunesse, et son amour de la rue, parce qu'il avait grandi dans la rue, et c'est ça qui fait Audiard. Et en plus, avec des réflexions très, très pertinentes.
Oui, et puis c'est aussi du comique dans un film policier. Tout à fait. Et ça, c'était relativement neuf, ça.
Tout à fait. Il avait toujours ce ton de décalage. Il l'a eu très longtemps, même s'il a fait des films sérieux. Mais si on lit bien et qu'on écoute bien les dialogues d'Audiard, il dit des choses à travers ces dialogues. Vous savez, une phrase comme « les cons, ça ose tout », rien que ça, ça va très très loin. Parce que des cons, on en connaît tous. Mais quand on imagine que ça ose tout, c'est-à-dire que ça peut déclencher des guerres, etc. etc.
Donc, c'est toujours d'actualité.
Et c'est toujours d'actualité, ça, malheureusement. Et donc, il faut reconnaître que Audiard ne faisait pas que s'amuser. Il avait envie de dire des choses, même s'il le disait sur le ton de la dérision.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Les curieux sont sur RTL.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hinault, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Oh ! Et ce n'est qu'un coup de semonce.
Un singe en hiver, les tontons flingueurs, le caf sur bif, mais aussi Flic ou voyou, Mortel randonnée, Le professionnel, Garde à vue. On doit tous ces films au talent de Michel Audiard. Et on entre dans les coulisses de ces tournages grâce à notre invité, le journaliste Philippe Durand. Un singe en hiver, on vient d'en entendre quelques répliques. On est au début des années 60. Et alors, il faut d'abord dire que c'est une période prolifique pour Audiard. Vous nous rappelez quel succès, quel film il enchaîne, 61-62. Moi, je suis vraiment, j'ai été surpris de ça.
Alors, en fait, il est la période... Saint Jean d'hiver, les tontons flagueurs, Mélodie en sous-sol, un taxi pour Tobruk, qui sont tous des cartons et qui, alors là, propulse Michel Audiard dans la stratosphère. Quoi. Mmh. C'est son talent qui fonctionne à merveille.
En deux saisons, en deux ans.
En deux ans, là, il casse tout.
Derrière ce film Un singe en hiver, il y a un trio, Gabin, Audiard et Henri Verneuil, le réalisateur. Avec qui signe-t-il un contrat? Parce que ça aussi, ça peut paraître surprenant.
En fait, c'est Gabin qui signe des contrats. Gabin qui veut avoir son équipe, il signe un contrat avec Michel Audiard en disant « je veux que tu fasses tous mes dialogues ». Il signe un contrat avec Henri Verneuil et Gilles Granger en disant « ça sera soit l'un, soit l'autre, en fonction des sujets, pour faire mes films ». Comme ça, il était tranquille, il avait sa petite cour avec lui. Gabin, il pouvait travailler dans d'excellentes conditions. Après, arrivaient les autres acteurs, mais souvent, il demandait Blié en plus en disant « bon, il faut trouver un rôle pour Bernard ». Et c'est comme ça que fonctionnait Gabin.
Et puis après, il faut convaincre aussi les producteurs. Alors là, c'est la MGM. Comment elle réagit face à ce scénario d'ivrogne à Saint-Jean-d'Hiver.
La MGM donc, est une maison américaine, donc il y avait des capitaux en France. Quand on leur dit on va tourner un film où il y a des ivrognes français, je ne pense pas que la MGM ait sauté de joie. Donc ils se sont dit, non, on va peut-être faire autre chose. Et heureusement,
c'est un régionalisme.
Ils voulaient quand même vendre le film à l'international, ce qui n'était pas gagné. Et en fait, c'est toute une histoire. L'histoire d'un Saint-Jean-d'Hiver, ça ne devait pas se faire. En fait, c'était un autre film qui s'appelait Au large de l'Éden qui devait se faire, où Gabin était patron d'un morutier. Donc, déjà, on imagine la scène. Et quand on a appris à Gabin qu'il allait tourner en Norvège, il a dit, les enfants, vous êtes gentils, on va rester en Normandie.
C'était un casanier, lui, il ne voulait pas se balader.
Il ne fallait pas l'emmener trop loin, lui. Donc, on lui a dit, Normandie, il y a un Saint-Jean d'hiver. Il dit, c'est parfait, on le tourne. Et ça s'est fait très, très vite, en plus.
C'était l'acteur qui avait le pouvoir, c'est ça qui est génial. Et c'est la rencontre Gabin-Belmondo. Ils se trouvent vite, ils sont bons vivants, ils ont plein de points communs.
Un point commun que Gabin avait d'ailleurs avec Ventura, qu'il a eu aussi avec Delon, c'est l'amour du sport. Et notamment l'amour de la boxe. Belmondo était un ancien boxeur. Et donc, ils se sont trouvés le sujet de conversation. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter de la politique et de ça, ils se sont mis à discuter de sport. Ils se sont rendus compte... En plus, ils adoraient le vélo tous les deux. C'était tous les deux des encyclopédies vivantes sur tout ce qui était le Tour de France et tout ça. Et donc, ils se sont mis à échanger des souvenirs comme ça. Tu te souviens de machin qui roulait comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont sympathisé. Et comme ils étaient vraiment, c'était de bonnes pattes finalement, et qu'ils aimaient le même métier, ils ont vraiment, vraiment sympathisé sur le tournage.
En un mot, Un singe en hiver, ça raconte quoi, Philippe Durand? c'est pas que deux ivrognes qui se baladent.
Pas loin.
Il y a forcément une philosophie, une morale, quelque chose qui ressort.
Il y a une morale chez les ivrognes. La morale ici, si vous voulez, c'est un vieux monsieur qui a promis de ne plus boire parce que les bombes lui sont tombées sur la gueule. Il a dit, si ça s'arrête, si j'en sors vivant, j'arrête de boire définitivement. Et lui tombe entre les bras un jeune mec de 30 ans, qui lui est alcoolique au dernier degré, et qui lui vient voir sa fille, et qui a des gros gros problème pour voir sa fille, et il sympathise, et puis quitte à sympathiser, autant sympathiser autour d'une bouteille, et en voilà une deuxième, en voilà une troisième. Ouais. Et donc en fait, il y a une scène de beuverie entre eux deux, parce que c'est dans la dernière partie du film où ils boivent ensemble, et c'est la dernière fois où le personnage Quentin, joué par Jean Gabin, boit et boira, puisqu'à la fin, il retourne à ses bonbons, et il retourne, le vieux singe retourne dans son hiver.
Philippe Durand, il faut aussi parler dans l'histoire de Michel Audiard, de la mort de son fils, oui, François, dans un accident de voiture. On est en janvier 1975. Il n'écrit plus les mêmes histoires, il n'écrit plus de la même façon après ça.
Non, là il se dit qu'il est temps de dire vraiment ce qu'il a au fond de lui-même. Donc il écrit un magnifique livre, La nuit, le jour et toutes les autres nuits. Et ensuite, dans les scénarios, il va chercher des scénarios plus sombres, des histoires assez vraiment sombres, dramatiques, pile ou face, garde à vue, même mort d'un pourri, on ne meurt que deux fois. Ce sont des histoires très très sombres dans lesquelles là il s'exprime vraiment. Il dit voilà ce que je pense de la vie. Je pense que la vie, d'abord on n'en sort pas vivant, ce qui est une évidence, mais il préférait le rappeler. Et donc il y a un autre Audiard, et là on découvre le Audiard, j'allais dire auteur à 100%, quoi. C'est pas seulement l'amuseur, c'est quelqu'un qui écrit.
Et puis il a mis toute sa passion et toute sa verve aussi à fabriquer ce film, les dialogues de ce film, garde à vue, face à face inoubliable entre Ventura et Serrault. Pourquoi c'est important pour lui ce film? D'ailleurs, il a du coup laissé tomber un autre film en parallèle.
Ah, il l'a complètement laissé tomber.
Bâclé même, on peut dire. Après,
ouais, ça, pour l'avoir bâclé, il l'a bâclé. C'est-à-dire qu'en fait, il avait signé pour deux films, en plus avec le même producteur. C'était Garde à vue qui lui tenait à cœur, parce que c'était la rencontre entre deux personnages, deux univers, un commissaire un peu sec, et puis un notaire de province, avec des histoires d'air. Enfin, il y avait beaucoup de choses à dire à travers ce film, mais il signe en même temps pour Le Professionnel avec Belmondo et réalisé par Lautner. Et là, il n'y croit pas du tout au Professionnel. C'est un film, bon, il s'est dit c'est un Belmondo, il adorait Belmondo, il lui a fait pour le rendre service. Mais quand il a apporté les dialogues, tout le monde est tombé de haut, de très 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 haut.
Il y a c'était une pas bon,
quoi. Oui, c'était très mauvais. Ouais. Et il y a une réunion à laquelle on a fait venir un grand spécialiste des scénarios et du dialogue qui était Francis Weber.
Ah oui.
Et tout le monde a dit, bah écoute Michel, ton dialogue est mauvais, on va tout faire réécrire par Francis Weber. Donc tous les dialogues du Professionnel sont de Francis Weber.
On croit que c'est du Audiard, mais c'est
on croit que c'est du Audiard, mais comme il avait signé le contrat et que son nom, il fallait absolument qu'il y ait Belmondo Audiard sur l'affiche, il a accepté de signer ces dialogues-là, même s'il n'en avait pas écrit le livre.
Donc Francis Weber n'est pas du tout au générique de ce film.
Il n'est pas du tout au générique, non. Il a bien, très très bien travaillé, très vite, mais c'était convenu dans les contrats qu'il ne soit pas au générique. C'est parce que Audiard vendait plus que Weber.
Et ça deviendra l'un des plus grands succès de Michel Audiard, si l'on ose dire, parce que c'est plus de 5 200 000 entrées, je rappelle, ses trois plus gros succès. On n'a pas parlé des Trois Mousquetaires, film de 1953, mais c'est 5,5 millions, Le Professionnel 5,2 millions, Le Marginal près de 5 millions.
Alors, ce qui est amusant dans Le Marginal, c'est qu'il a refusé de signer les scénarios, les dialogues. Donc les dialogues sont de Michel Audiard, mais on ne le sait pas parce qu'il n'est pas, au générique. Mais c'est un de ses plus gros succès. Ouais. C'est les paradoxes de Michel Audiard.
Et voilà, et plein de paradoxes, plein d'anecdotes à découvrir dans ce dictionnaire insolite des tontons flingueurs, Philippe Durand, aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.